serrer le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
de gauche. Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et plus que jamais société. Dans ce nouvel épisode, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la lutte contre l'homophobie. Pour parler de ce fléau qu'est l'homophobie et de ses manifestations dans le milieu du football, j'ai reçu Julien Pontès, cofondateur du collectif Rouge Direct et ancien président de l'association Paris Foot Gay. Pendant une heure, on a parlé de son combat ô combien difficile, du dialogue compliqué avec les assauts de supporters et les instances, mais aussi du sujet tabou de l'homosexualité chez les joueurs de foot et la difficulté, pour eux, de faire leur coming out. Banquette épisode 66, c'est maintenant. Salut Julien, comment
Salut.
Ça va ?
Ça va bien, ça va bien.
Alors, tu es ici dans Banquette pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, vraiment, c'est le sujet de l'homophobie dans le football. C'est une lutte importante, et pas que dans le football, d'ailleurs dans le sport. Et je te remercie beaucoup d'être là dans Banquette pour en parler. Mais juste avant qu'on parle des choses sérieuses, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Je suppose que la plupart des auditeurs ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu, Julien Pontès ?
Alors, je suis le porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le sport. Je suis également l'ancien président et le dernier président de l'association Paris Foot Gay, qui a exercé ses fonctions entre 2003 et 2015. Donc c'était une association de lutte contre l'homophobie dans le football également, mais c'était une association un petit peu plus large, avec également une équipe de football, qui était composée majoritairement de joueurs hétéros, d'ailleurs, pour être un peu à l'image de la société et pas être dans l'entre-soi ou la communauté LGBT. Voilà, c'était l'orientation du Paris Foot Gay, c'était ça. C'était combattre l'homophobie, mais pas en restant entre soi. C'était combattre l'homophobie là où elle se trouve, c'est-à-dire sur les terrains banals, courants et dans les tribunes des stades de football.
Alors, tu fais un très très beau combat, donc la lutte contre l'homophobie dans le football, mais on parle aussi de football. D'ailleurs, quel est ton rapport, toi, avec ce sport ? Si je te dis football, à quoi tu penses directement ?
Alors, le football, au départ, c'est un sport que suivait mon père, comme des millions de Français. C'est des images que, quand j'étais petit, de Platini, l'équipe de France, Saint-Étienne, tout ça, bon. C'est un sport auquel on ne peut pas vraiment échapper, en France et dans le monde. C'est mes copains de collège, mes copains de lycée, avec qui on parlait football, passait des soirées football, c'était des footeux. Moi, j'étais pas le plus footeux de la bande, mais enfin, j'étais imprégné de l'actualité du football. Voilà, c'est ça aussi, c'est les copains, les bières, les matchs. Des souvenirs du championnat de France de 95 avec l'équipe de Nantes, qui était une belle équipe. C'est des souvenirs de l'équipe d'Auxerre aussi, de belles émotions quand... la première fois que je suis allé au stade de la Baie des Champs, à Auxerre, où j'ai vu jouer Laurent Blanc, à l'époque. Et c'était un joueur qui m'a beaucoup impressionné, par son style, par sa puissance, sa rapidité. Voilà. Ça fait rêver, le foot, surtout quand on est jeune, et surtout quand on n'a pas encore bien cerné les problèmes qui se posaient aussi dans les tribunes. Et je pense bien sûr aux manifestations d'homophobie et de racisme.
Effectivement, on va en parler. Mais juste avant, toi, comment tu te définirais ? Est-ce que tu es plutôt du genre supporter passionné, juste un fan de football qui regarde vraiment les matchs pour le plaisir d'en regarder, un pratiquant acharné ? Comment tu te définirais ?
Moi, je suis plutôt, on va dire les choses assez, assez franchement, je suis plutôt un amoureux déçu du football. J'ai connu une période des années 90 où j'ai l'impression que on était plus dans le beau jeu, moins dans le sport business, avec des joueurs moins arrogants à l'époque, plus solidaires peut-être aussi sur le terrain. Donc je dis amoureux déçu parce que ces valeurs-là, j'ai l'impression qu'elles se sont un petit peu éloignées. Et puis, quand j'ai commencé à militer dans le monde de la lutte contre l'homophobie dans le football. C'est vrai que là, j'ai entendu des choses qui me plaisaient moins. Je pense bien sûr à ces chants homophobes auxquels je ne m'habitue pas et qui font que à peu près tous les jours, on est au poste de combat pour faire reculer ce fléau qui gangrène le football, qui défigure le football, le football devrait être une fête, une communion. Malheureusement, moi, cet esprit de communion, je l'ai perdu. J'aime encore regarder le football quand mon mari m'autorise à regarder des matchs à la télé, ce qui est très rare.
Il n'est pas très footeux ?
Non, mon mari n'est pas du tout footeux. Je le regrette un peu parce que j'aimerais pouvoir regarder de temps en temps un petit match tranquillou, mais c'est compliqué, la négociation est très 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 compliquée, sauf quand l'équipe du Portugal joue, étant donné que mon mari est portugais.
Et même les matchs de Ligue des Champions là, qu'il y a eu dernièrement, ceux de Liverpool ou de l'Ajax, il n'a pas réussi, réussi à voir ça tous les deux. Pourtant, ça va même au-delà de l'amour du sport. C'est des vrais moments intenses. Enfin, c'est dramatique. C'est des grands moments de. Enfin, on dirait des films, quoi, quasiment.
Oui, là, c'est vrai qu'on a été gâtés, apparemment, dans le déroulement des derniers matchs de la Ligue des Champions. Non, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas négociables dans un couple. Et. Le football en fait partie, donc malheureusement, c'est rare que je puisse regarder tranquillement un petit match de football, mais je vais quand même essayer de poursuivre les négociations.
Ça marche. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ton militantisme, du coup, dans le football. Déjà, à partir de quand tu as commencé à militer, justement, pour combattre l'homophobie dans le football? Quel a été l'acte fondateur, justement, qui t'a fait rentrer dans le militantisme?
Alors, c'est très précisément en 2010, quand j'ai entendu parler du Paris Foot Gay la première fois. C'était à l'occasion d'un match auquel l'équipe adverse n'avait pas voulu participer. C'était une équipe...
Créteil, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'était l'équipe du Créteil Bébel, donc, qui avait fait un mail au Paris Foot Gay pour leur dire que, compte tenu de leur conviction religieuse, ils ne souhaitaient pas rencontrer une équipe qui s'appelle Paris Foot Gay. Bon. Je pense que les joueurs du Créteil Bébel ont été totalement dépassés par ce qui leur arrivait. Je pense qu'ils ont agi, ils ont mal agi, de manière discriminatoire, et c'est odieux. Mais en même temps, ils n'avaient pas conscience, à mon avis, hein, de la gravité de ce qu'ils faisaient. Bon, à partir de là, on avait un exemple assez frappant de discrimination dans le football sur la base de l'orientation sexuelle. Du coup, à cette occasion, j'ai travaillé à la mairie de Paris à l'époque et certains élus de la mairie de Paris avec lesquels je travaillais ont souhaité apporter leur soutien à l'équipe du Paris Foot Gay. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le fondateur et le président de l'époque du Paris Foot Gay, qui est Pascal Brett. Et donc voilà, j'ai fait connaissance avec Pascal Brett, qui est devenu un ami, un frère, mon témoin de mariage aussi. Et bon, il m'a expliqué son combat. Et ce combat, moi, m'a beaucoup séduit et convaincu. L'idée de Pascal Brett était de créer une équipe de foot... qui soit composé majoritairement d'hétérosexuels, parce que on ne voulait pas être catalogué équipe LGBT, on voulait être une équipe à l'image de la société. Et donc
ça a été facile, justement, d'avoir des joueurs hétéros qui adhèrent à la cause LGBT.
Ouais, bizarrement, dans tout ce parcours militant là, qui remonte à bientôt 10 ans, quand je parcours un peu ce chemin, je m'aperçois que les aides les plus décisives qu'on a reçues dans ce combat venaient de joueurs d'hétéros. Voilà, je pense à Arthur Champollion, qui était le vice-président du Paris Foot Gay, qui s'occupait de l'équipe, qui gérait aussi des aspects de relations avec les clubs de supporters. Voilà, c'est des gens... qui n'étaient pas concernés au premier chef par l'homophobie. Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas vécu directement, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a de l'empathie, suffisamment d'empathie, pour considérer que l'homophobie est une discrimination insupportable. Et donc, on a eu à nos côtés des joueurs hétéros, des militants hétéros, et c'est très bien, comme dans les luttes antiracistes, on trouve aussi quelques blancs, et c'est très bien, c'est ce qui nous unit.
Et toi, avant d'entendre parler du Paris Foot Gay, comment tu vivais justement l'homophobie dans le football? Est-ce que pour toi c'était quelque chose qui existait? C'est pas un sujet, j'ai l'impression, dont on parlait beaucoup sur les années 90, au début des années 2000. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui existait, que tu voyais et pour lequel tu avais envie de t'engager avant ça, avant 2010?
Disons que je sentais bien qu'avec mes copains footeux, quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, c'était pas trop le milieu pour faire son coming out. C'était mes potes, c'était mes amis, mais je voulais pas créer de malaise. C'était le tabou, en fait, le non-dit. Je pouvais être out, hein, vivre comme j'étais dans d'autres milieux, mais dès le départ, je voulais pas créer de malaise avec des copains qui avaient l'injure homophobe un peu facile. Hein, PD, ça part très vite quand on est dans des groupes de garçons, PD, enculé, tout ça, bon, ça part vite. Bon, il se trouve que, contrairement au racisme, on sait quand on blesse quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est rebeu, un homo, ça se voit pas forcément sur le visage. Donc voilà, les copains avaient l'injure homophobe très très facile. Bon, bah dans ces conditions, les copains fouteux, on sait que c'est pas le bon milieu pour sortir du placard. Bon.
Mais comment toi tu réagissais quand tes copains disaient pédé ou enculé ou tafiole ou enfin bref, comment toi tu réagissais en entendant ces propos-là en étant avec eux?
Forcément, ça fait mal, parce que on trouve ça blessant, sans pouvoir trop réagir, parce que eux-mêmes n'ont pas conscience du caractère homophobe de leurs propos. D'ailleurs, plus généralement, dans le monde du foot, dans le monde des supporters, dans le monde des amateurs de football, il y a beaucoup d'inconscience dans le fait que l'injure homophobe est blessante. Je pense à Louis Nicolin, par exemple, qui traite Benoît Pedretti de petite tarlouse. Bon, Louis Nicolin, sur le coup, il n'avait pas conscience qu'il utilisait une injure homophobe. Mais là, à l'époque, le Paris Foot Gay avait réagi. Et puis, Louis Nicolin était une personne intelligente, et un homme très bon et sensé. Il avait souhaité rencontrer le Paris Foot Gay. On l'avait rencontré et puis on lui avait expliqué. Il avait compris. Parce que quelquefois, il suffit de parler pour lever les doutes sur le fait que l'homophobie fait mal. Il suffit de l'expliquer. Bon, quelquefois, ça suffit pas. Il faut sanctionner. Mais là, Louis Nicolin, c'était l'exemple parfait de l'homophobie un peu inconsciente qui peut se dissiper juste en parlant. Et Louis Nicolin avait fini par signer la charte contre l'homophobie du Paris Foot Gay avec son club de Montpellier.
Et du coup, la question c'était avant de rejoindre le Paris Foot Gay, tu n'avais pas eu, en entendant toutes ces insultes dans le milieu du foot, de t'engager plus tôt?
Non, en fait, ça correspond aussi à une époque de ma vie où j'étais pas militant combattant contre l'homophobie. Jusqu'à 30 ans, j'étais, comme beaucoup de gays, dans l'idée de, pour vivre heureux, vivons cachés. Quand on est dans cet état d'esprit, on laisse couler l'injure homophobe, on la relève même pas, on baisse les yeux parce qu'on est habitué à l'entendre. De toute façon, quand on est gay, du PD et de l'enculé, on en a à peu près 10 par jour, voilà, tous les jours. Donc, quand on passe la frontière et qu'on passe du côté de la lutte contre l'homophobie, on n'entend plus les choses de la même façon. Dans un stade, par exemple, l'injure homophobe nous hérisse, nous fait plus réagir. Voilà. Mais ça, c'est parce que, avec le temps, on apprend aussi à mieux se défendre et à ne plus laisser passer des choses qu'il ne faut pas laisser passer. C'est une question de temps, d'âge, de maturité, une question d'engagement aussi.
Mmh. Tu parlais des insultes dans les stades, c'est un sujet que je voulais aborder plus sur la fin de l'épisode, mais bon, on peut y aller maintenant. Du coup, il y a eu la sortie de la ministre Roxana Maracineanu qui s'est dit choquée parce qu'elle a entendu lors du match PSG-OM, donc les nombreux chants, les nombreuses insultes, s'est dit choquée par ça, qu'elle jugeait très homophobe. Et il y a beaucoup de gens, de sympathisants dans le football, de supporters qui disaient mais c'est des choses qui ont toujours existé, qui ont toujours été là et c'est pas homophobe, c'est pas parce que moi je le dis que je suis homophobe. Et c'est un truc que t'as dit, c'est pour beaucoup de gens, ils savent pas, enfin c'est un truc qui est ancré dans la culture entre guillemets supporters française. Et quand ils disent PD ou enculé, c'est pas ils insultent pas le joueur d'homosexuel, pour eux enfin c'est juste une insulte comme une autre. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que même si le joueur en question n'est pas gay, en fait, ça reste une insulte homophobe. Est-ce que toi, tu partages l'avis de la ministre ou tu es plutôt de celui de la présidente de la Ligue qui dit que voilà, c'est la culture supporter, c'est...
Le folklore,
voilà, exactement. Toi, tu te positionnes, j'imagine déjà, mais je veux t'entendre le dire, mais tu te positionnes plutôt du côté de la ministre, c'est ça?
Oui, bien sûr, totalement. Ouais. Là, on a été très agréable.
Mais qu'est-ce que tu réponds, du coup, aux supporters qui disent ça?
Oui, effectivement. Bon, alors, la ministre a exprimé une position très claire pour sanctionner les chants homophobes dans les stades de football. Elle a bien raison. C'est vrai qu'elle a été... heurtée parce qu'elle a entendu au Parc des Princes. Par contre, ça n'a pas choqué plus que ça les instances du football, la Ligue de football professionnel, ce qui est absolument anormal. Moi, j'ai eu des témoignages de ce qui s'est passé au Parc des Princes ce soir-là. Un journaliste de l'équipe qui m'a indiqué que pendant une demi-heure, il y avait eu des injures homophobes contre les joueurs de Marseille, ce qui est extrêmement, extrêmement grave. Donc, elle a eu la bonne réaction, la ministre des Sports. Effectivement, il faut sanctionner. Il faut sanctionner au même titre que les cris de singe sont insupportables et doivent être sanctionnés dans les stades de football. Donc, elle a bien raison. Alors, évidemment, nous, on fait un peu le boulot que la LFP ne fait pas. On dénonce les actes homophobes, banderoles, chants homophobes dans les stades de football. Ça ne nous fait pas que des amis. Hein.
J'imagine.
Voilà. On a des centaines d'injures homophobes, de gens qui disent on n'est pas homophobe, bande de PD. Des fois, on est dans des niveaux d'incohérence et de contradiction avec certains supporters qui sont inimaginables, des supporters qui nous injurient sur les réseaux sociaux, qui nous disent maintenant, dès que tu dis PD, t'es homophobe. Ben oui, effectivement, PD, c'est une manière très péjorative de désigner les personnes homosexuelles. Pour nous, ça semble être une évidence, mais cette évidence, malheureusement, il faut l'expliquer, l'argumenter, la répéter, etc. Donc là, nous, on a dénoncé récemment un chant homophobe des supporters de Lens et une banderole homophobe des supporters de Grenoble. Bon, ça ne nous amuse pas beaucoup de devoir faire ça, mais en même temps, il faut qu'on rappelle la limite de ce que prévoit le règlement de la LFP ou bien de ce qui est prévu par la loi. Parce que quand on utilise le terme PD pour injurier l'adversaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise l'image de l'homosexuel pour dire à l'adversaire que vous êtes nul, fragile, vous êtes des merdes, enfin, etc. Bon. Nous, ce qu'on veut juste essayer de faire comprendre, c'est que en tant que personne LGBT, nous ne sommes pas des injures. Voilà. Il faut arrêter d'envoyer à la figure de l'adversaire de manière injurieuse le terme PD, parce que nous sommes des personnes ni plus ni moins respectables que les autres. Voilà. On demande juste à ne pas être utilisé comme des injures. Et on ne désespère pas de faire comprendre à une certaine catégorie de supporters qu'il faut cesser de faire ça. Il y a quelque chose qui nous est insupportable, c'est que dans le monde actuellement, vous voyez, au sultanat du Brunei, on vient de décider que être homosexuel, ça vaut la peine de mort par lapidation. Voilà. En Russie, en Tchétchénie, c'est pas la joie non plus pour les LGBT, au Brésil non plus. Dans 11 pays dans le monde, l'homosexualité relève de la peine de mort. Bon, alors après, quand des supporters ultra nous disent « Arrêtez de nous emmerder, on peut dire PD, ça a toujours été comme ça, c'est pas injurieux », on a juste envie de leur répondre « Écoutez, la discrimination homophobe, elle vaut la peine de mort dans une grande partie du monde. » Donc, arrêtez avec ça, réfléchissez un petit peu plus largement que l'espace d'un stade de football, pensez à ce qu'est une discrimination homophobe et ne soyez pas complices de cette discrimination. Je suis sûr qu'ils peuvent trouver d'autres expressions pour déstabiliser l'adversaire ou pour plaisanter ou pour chambrer. Franchement, arrêter de dire PD dans un stade de football, c'est pas une atteinte insupportable à la liberté d'expression. On peut trouver d'autres façons de déconner dans un stade de foot et de se marrer entre copains dans un stade de foot. Voilà, on ne demande pas plus que ça.
Et t'as déjà eu des discussions avec des groupes de supporters qui entendent le discours que tu viens de tenir, qui disent « on comprend, on est d'accord, on va changer, on va arrêter ». Est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure en fait, qui s'est présenté?
Oui. En fait, du temps du Paris Foot Gay, en septembre 2013, on avait organisé une journée de rencontres et d'échanges avec des clubs de supporters à l'INSEP, une demi-journée débat avec Nicolas Ourcade, le spécialiste du monde du supporterisme, et puis des clubs de supporters. Bon, le dialogue n'est pas toujours facile à enclencher, mais si on passe un petit peu de temps, si on fait un bout de chemin chacun vers l'autre, ça fonctionne. On arrive à s'entendre avec eux. D'ailleurs, il faut aussi entendre de leur part le sentiment qu'ils ont aussi d'être stigmatisés. C'est ce qu'ils expriment. En tout cas, il faut les écouter. Certains supporters souffrent d'être stigmatisés comme des gens idiots, des gens bourrins, des gens violents, des hooligans. Voilà. C'est aussi une image dégradée qu'ils subissent, sur laquelle il faut aussi travailler. Il faut aussi déconstruire certains clichés sur les supporters, parce que tous les supporters ne sont pas violemment racistes ou violemment homophobes. Donc il faut que chacun parle, chacun s'écoute. Et c'est pour ça que le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie, on rencontrera les supporters lensois, à l'invitation de la direction du RC Lens, qui a eu la bonne réaction quand on a dénoncé le chant homophobe de supporters de Lens. Ils nous ont appelés, ils nous ont proposé de venir les voir. Nous, on a souhaité y aller, mais pour nous, c'était aussi l'occasion de discuter avec les supporters, parce qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'on partage beaucoup de choses dans l'amour du football, dans la volonté d'en faire une école de la vie. Même si la vie, elle n'est pas toute rose, il y a une part de violence, il y a une part de lutte aussi dans la vie, dans le foot. Bon, ben, je pense que ce qui nous rassemble, il faut s'appuyer dessus. Et ce sport nous rassemble, et peut encore plus nous rassembler. Et c'est aussi par la voie du dialogue et de la compréhension mutuelle qu'on y arrivera. Moi, je ne désespère pas de trouver un terrain d'entente et de compréhension avec tous les supporters. Bon, peut-être pas les plus radicaux, mais c'est pas grave. Il faut compter sur ceux qui voudront bien nous tendre la main aussi.
Et au niveau des instances et des clubs, là, tu as cité le RC Lens. Est-ce qu'il y a des instances qui vous soutiennent qui vous soutenaient avant avec le Paris Foot Gay et aujourd'hui avec le collectif Rouge Direct? Quelles sont les instances et les clubs qui suivent ta démarche et celle des assos et du collectif que tu représentes maintenant aujourd'hui?
Avec le Paris Foot Gay, on avait quand même réussi à faire signer 8 ou 9 chartes contre l'homophobie à des clubs de foot professionnels. C'est beaucoup, mais c'est peu. Sur une quarantaine de clubs, c'est pas énorme, mais enfin, c'était pas rien. Il y avait le Paris Saint-Germain, qui avait toujours été très proche du combat que nous menons. Il y a eu de gros progrès qui ont été faits au Parc des Princes jusqu'à récemment, malheureusement. Mais en tout cas, on sait qu'à la tête du PSG, avec Jean-Claude Blanc, on a une oreille attentive, on a un soutien dès qu'on en a besoin. Et c'est très bien. Voilà. Après, quand nous étions constitués en association avec le Paris Foot Gay, on avait un petit peu plus de moyens. On avait notamment les moyens d'aller voir les clubs de foot et de leur faire signer des chartes. Là, on est un petit collectif qui est plus un collectif de lanceurs d'alerte qui tape un peu sur les doigts des clubs quand ils laissent les choses aller dans le mauvais sens. Voilà, donc on n'est pas des pères fouettards, mais enfin, c'est vrai que, étant donné qu'on a moins de moyens d'action, on est plus dans l'alerte, en fait. Hein.
Et avec les joueurs, comment ça se passe? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passait avant? Est-ce qu'ils sont réceptifs ou... Oulala, je t'ai vu hausser les sourcils. Ouais. Non, pas du tout, c'est ça, ils ne sont pas du tout réceptifs au combat que tu mènes, que vous menez?
Non, je pense que pour eux, c'est compliqué pour les joueurs, parce que...
C'est compliqué de se positionner, c'est ça?
Oui, c'est compliqué de se positionner, parce que c'est un sport qui cultive beaucoup l'image de la virilité. Et alors, il y a quelques exemples quand même de joueurs assez intelligents et courageux pour prendre position, comme Antoine Griezmann
oui.
ou Olivier Giroud. Mais par exemple, Olivier Giroud, il évolue... dans le championnat d'Angleterre. Et en Angleterre, ils ont mis en place des dispositifs qui facilitent les prises de position de joueurs. En France, le problème, c'est que... Franchement, moi, j'en voudrais pas forcément aux joueurs de foot professionnels de pas prendre position sur cette question-là, parce que les conditions, elles sont pas créées par la FFF, par la LFP, pour que les joueurs se positionnent. On est très en retard en France par rapport à ça. Par exemple, aux Pays-Bas, la Fédération hollandaise de football a son char à la Gay Pride, à la marche des fiertés d'Amsterdam.
Bon. C'est vrai qu'on imagine difficilement le char de la FFF à la Gay Pride.
Avec ouais. Noël Le Graët.
Avec Noël Le Graët, ouais.
Effectivement, c'est peut-être pas pour demain, mais enfin, c'est quand même pas non plus très très compliqué... financièrement, la FFF a quelques moyens. Elle pourrait les utiliser pour ce genre d'action très symbolique, mais qui pourrait un peu faire baisser la pression sur ces questions d'homophobie et puis libérer la parole des joueurs qui souhaitent prendre la parole là-dessus. Bon, il y a Lilian Thuram hein, qui est toujours à la pointe du combat contre les discriminations, mais bon, c'est quand même une autre génération maintenant. On ne voit pas très bien qui le remplacera dans ces combats pour le moment.
On va revenir un petit peu sur le Paris Foot Gay, dont on a parlé un petit peu, enfin même beaucoup, de cette ancienne association, de ce qu'elle faisait. Et elle s'est dissoute, si c'est le terme exact,
ouais, tout à fait, ouais.
en 2015.
Ouais, ouais,
mais du
ouais.
coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la fin de cet asso? Pourquoi la fin du Paris Foot Gay?
Ouais. Bonne question. C'est l'addition de beaucoup de choses. Nous, c'est vrai qu'au Paris Foot Gay, on avait fait signer la charte contre l'homophobie à beaucoup de clubs qui avaient accepté de mettre leur signature au bas d'un papier. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils mettaient en place des actions concrètes de formation des entraîneurs, de sensibilisation des jeunes en centre de formation... des clubs qui ne sanctionnaient pas, même pas des clubs signataires de la charte contre l'homophobie qui ne sanctionnaient même pas des chants homophobes dans leur stade. Donc nous, on constatait un recul entre 2013-2015, un recul dans l'engagement de la Ligue de foot professionnelle. Pour la FFF, on n'en parle même pas parce que vraiment, ils n'ont jamais rien engagé contre l'homophobie. Mais bon, voilà, on sentait qu'il y avait un désengagement parce qu'on était un petit peu... casse-pieds, on demandait des choses concrètes et pas seulement des paroles en l'air. Voilà. Au fil du temps, la Ligue de football professionnel, avec Frédéric Thiriez, ne répondait plus à nos demandes. Par exemple, on avait demandé les derniers mois, demandé et redemandé à Thiriez de s'adresser à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour qu'ils signent notre charte contre l'homophobie. Et il y avait aucun retour de sa part, alors que dans les années qui précédaient, on avait quand même construit des relations de travail efficaces avec la Ligue de foot professionnelle. Et là, en 2013, plus de son, plus d'image, on n'avait plus de soutien. Pareil pour la mairie de Paris. La mairie de Paris s'était engagée dans la voie des Gay Games.
Oui.
Voilà. Ils avaient choisi d'être candidat pour l'accueil des Gay Games. Alors, les Gay Games, c'est les Jeux Olympiques LGBT. Nous, on n'était pas favorables pour soutenir une telle initiative parce que la lutte contre l'homophobie, pour nous, elle se passe dans le milieu courant, dans le milieu banal. Pour nous, c'était idiot de réunir des athlètes gays pour les convaincre que l'homophobie, c'était mal. Pour nous, c'est un combat qui n'a pas de sens. La lutte contre l'homophobie, elle ne se passe pas chez les gays. Enfin, c'est ridicule. Donc, du coup, on n'a pas soutenu cette volonté de la mairie de Paris d'accueillir les Gay Games. On l'a ressenti aussi dans nos relations avec eux. On avait pareil, plus de son, plus d'image.
Mais comment ça s'explique, du coup, ce revirement de la mairie de Paris, de la LFP, j'ai l'impression, limite, du jour au lendemain... Silence radio, plus de nouvelles.
Oui, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire un peu de pinkwashing. Le pinkwashing, c'est comme le greenwashing. Hein. On met un petit vernis rose pour se donner bonne conscience et pour prétendre qu'on a fait des choses dans la lutte contre l'homophobie. Donc, nous, on demandait des choses qui étaient plus compliquées à mettre en place. On était plus exigeants. Bon, quand la LFP ou la mairie de Paris décide de flatter la communauté gay en faisant une opération lacée arc-en-ciel une fois par an, en disant que waouh, ça y est, on a vraiment fait avancer la lutte contre l'homophobie. Ou quand la mairie de Paris dit fantastique, les gays, allez jouer au badminton ensemble, ça va faire reculer l'homophobie. Ben ça, c'est plus simple en fait, c'est plus simple à mettre en place. C'est du pinkwashing, c'est de la communication. Nous, on demandait qu'il y ait vraiment des actions mises en place pour faire évoluer les mentalités dans le milieu courant, quoi. Bon, voilà. Donc, il y a deux options différentes. Soit on fait du communautarisme, et puis c'est facile. Soit on s'attaque au problème, on prend le taureau par les cornes dans le milieu courant. Et là, par contre, c'est quand même vachement plus compliqué. Du coup, pourquoi est-ce que le Paris Foot Gay s'est arrêté? Il y avait donc ce désengagement, là, de la LFP, de la mairie de Paris. Et puis, moi, j'ai été agressé aussi. J'ai été victime d'une agression homophobe en juillet 2015. La première fois de ma vie, à 41 ans. Bon, évidemment, ça n'avait rien à voir avec mes activités militantes. Mais enfin, on se dit, bazar, on passe du temps, de l'énergie à combattre une discrimination. Et puis, finalement, ce phénomène ne recule pas. Et j'en suis moi-même la victime. Là aussi, ça marque, ça fait réfléchir. Et puis, le coup de grâce, ça a été le match entre Lyon et l'OM, où Mathieu Valbuena...
Oui, le retour de Valbuena à Marseille, ouais.
Voilà.
Avec la fameuse marionnette...
Brûlée ou pendue, je sais plus, enfin, voilà. Et puis, des chants homophobes contre Valbuena. Et Valbuena, c'est un PD, Valbuena, c'est un PD. Bon... J'avoue que j'ai pas bien supporté d'entendre ça et le silence des instances du foot, du ministère des Sports, un silence assourdissant. Je me suis dit peut-être qu'on a perdu la partie. Mm-hmm. Il y a pas de honte. On a mené le combat, mais peut-être qu'on a perdu.
Du coup, juste pour rebondir sur les Gay Games, sur ça. Mm-hmm. Toi, tu dis que c'est un peu facile de la part de la mairie de Paris d'organiser ces jeux-là que des athlètes gays.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut pas aussi le voir comme une manière de dire qu'on peut organiser un événement 100% LGBT dans une ville comme Paris? Est-ce qu'on peut pas aussi voir les choses sous cet angle-là? C'est-à-dire que c'est un truc qui aurait été inconcevable peut-être il y a 10, 15 ans et qu'aujourd'hui c'est totalement possible et réalisable d'organiser un événement sportif 100% LGBT. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir les choses sous cet angle-là?
On peut aussi rester dans l'illusion très parisienne que tout va bien. C'est vrai peut-être que le niveau d'homophobie à Paris est tellement faible que ça permet d'organiser des Jeux Olympiques arc-en-ciel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui se passe à Auxerre, en Auvergne, à Lyon, Je crois que il faut avoir une approche qui sorte des limites de Paris, où les choses se passent relativement bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'homophobie dans les terrains de foot amateur. Alors, on peut se faire plaisir. On est vraiment dans de la communication. Voilà, on a fait les Jeux Olympiques arc-en-ciel, à grands frais aussi, hein, parce qu'il y a une question d'argent aussi, d'argent public, de mise à disposition d'équipements publics. Moi, je ne suis pas très très satisfait de voir ces stades vides pour les Gay Games. Bon, c'est beaucoup d'argent. Quelle image on donne? Voilà, moi je dis qu'on donne du grain à moudre à tous les homophobes qui disent qu'il n'y en a que pour les gays à Paris. Voilà, que c'est une catégorie de la population qui est privilégiée parce que on leur met à disposition des équipements somptueux pour qu'ils jouent ensemble. Je trouve que ça aggrave l'image d'une communauté repliée sur elle-même. Bon, après, là aussi, je ne me fais pas que des amis en disant ça, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur du débat. Notre combat, il ne se situe pas à Paris, entre gays. Voilà, c'est pas dans cet espace-là qu'on lutte contre l'homophobie.
On va parler maintenant du collectif Rouge Direct. Donc, ça a été créé quand, justement, ce collectif ?
En 2016, à la fin de l'année 2016.
Donc, c'est à peine un an après la fin du Paris Foot Gay. Alors, pourquoi, tout de suite après, avoir embrayé sur ce collectif ? J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de lassitude dans le combat avec le Paris Foot Gay. Pourquoi avoir, justement, embrayé directement avec Rouge Direct ?
Alors, pas directement. On s'est laissé quand même un an de répit, histoire de se refaire un peu une santé. Et puis, Pascal Brett, le président fondateur du Paris Foot Gay, on est resté amis, c'est mon témoin de mariage. Et puis, on avait quand même beaucoup travaillé sur ces questions-là. Les journalistes continuaient à nous appeler quand il y avait des problèmes d'homophobie dans le sport. Et puis, on était les seuls à réagir. Il n'y a pas une seule autre association qui s'est emparé de cette question et qui a repris le flambeau pour lutter contre l'homophobie dans le sport.
Même des assos comme SOS Homophobie ou Le Refuge ou des assos comme ça ne sont pas positionnaient pas.
Ah non, dans le sport en particulier, SOS Homophobie traite de manière généraliste des questions d'homophobie. Puis Le Refuge, c'est une association qui propose des hébergements aux jeunes exclus. Bon, c'est des amis. D'ailleurs, on sera reçu chez la ministre des Sports avec eux, parce que c'est des partenaires. On était les seuls à être toujours contactés par les journalistes. Bizarrement, les journalistes n'appelaient pas les associations LGBT qui jouent au badminton ou au ping-pong. C'était plutôt les anciens du Paris Foot Gay qui continuaient à appeler. Bon, très franchement, je vous le dis, j'avais pas du tout envie de repartir dans ce combat à la fin de l'année 2016. Je crois que Pascal et les autres non plus n'avaient pas très envie de repartir dans un combat aussi difficile après avoir essuyé un échec. On avait quand même, on peut considérer qu'on avait échoué en 2015 quand on avait raccroché les crampons. Bon. Et puis il se trouve, je parlais tout à l'heure des compagnons de route hétéros. Il se trouve que Julien, un ami, un compagnon de route du Paris Foot Gay, a beaucoup insisté pour qu'on reprenne le combat. Il nous a proposé un nom de collectif, il nous a proposé une charte graphique, une identité visuelle, des modalités d'action en tant que lanceur d'alerte. Il nous a rassuré, ne vous inquiétez pas, suffira juste de lancer l'alerte quand il y a des faits d'homophobie, et puis ça ira bien, bon. Et puis finalement, on a réfléchi, on s'est dit qu'il avait sans doute raison. Il nous a convaincus et on est reparti sous la forme d'un collectif. Et puis, l'actualité fait que on a bien fait de reprendre le flambeau, parce que dès la fin de l'année 2016, il y a eu de nouveau des chants homophobes au Parc des Princes. Un match entre Paris et Nice, où on entendait « les Niçois, c'est des PD ».
Malheureusement, c'est un chant qu'on retrouve dans beaucoup de stades avec toujours la même mélodie.
Ouais.
Malheureusement.
Vous savez, moi, je m'y habitue pas. J'arrive pas à m'y habituer. Il y a eu ces chants homophobes contre les Niçois au Parc des Princes, alors que quand même le Paris Saint-Germain avait fait le ménage dans les tribunes. Et puis ça a continué avec l'OM, dès le début de l'année 2017, avec aussi des cris de singe contre Mario Balotelli, le joueur de Nice, et la LFP qui avait sanctionné à juste titre l'équipe de Bastia pour ses chants, pour ses cris de singe, alors que dans le même temps, la LFP ne condamnait pas, n'avait engagé aucune sanction en ce qui concerne les chants homophobes à Paris ou par les supporters de l'OM. Donc là, ça nous a sérieusement agacés. On s'est dit qu'il fallait passer la vitesse supérieure vis-à-vis de la LFP. Et puis, on a donc pris un avocat pour envoyer une mise en demeure à la Ligue de football professionnel pour qu'elle sanctionne enfin les chants homophobes.
Voilà. Ça, c'était en 2017 ?
Non, c'était en 2018.
Ouais.
OK. Oui, au fur et à mesure, on s'est aperçu que la phase d'échange avec la LFP n'était plus d'actualité, qu'elle n'était plus possible, qu'on avait été au bout.
Donc du coup, vous êtes passé à l'action.
On est passé à l'action avec cette mise en demeure en partenariat avec Stop Homophobie. Et puis, on va de nouveau mettre en demeure la Ligue de football professionnel parce que c'est incroyable. Mais enfin, c'est notre petit collectif qui dénonce les banderoles à Grenoble, les chants homophobes à Lens. Alors, la LFP... convoque la commission de discipline quand on dénonce ces faits-là, mais est-ce que c'est à nous, petit collectif de rien du tout, de dénoncer ces faits d'homophobie dans les stades ? Voilà, on en est là, on est encore dans le bras de fer avec des instances du foot qui ne veulent pas faire grand-chose, mais avec une ministre des Sports qui donne des signes de très bonne volonté pour faire reculer l'homophobie dans le football. On la rencontre d'ailleurs très, très prochainement.
T'as bon espoir qu'un jour on n'ait pas enregistré un épisode comme celui-ci, qu'un collectif comme Rouge Direct n'ait pas de raison d'exister pour dénoncer l'homophobie dans le sport et dans le football. Est-ce que t'as bon espoir qu'un jour les supporters arrêtent de crier PD, enculé dans les stades ? T'y crois vraiment, toi ?
Oui, j'y crois. J'y crois parce que je regarde un petit peu dans d'autres pays. Par exemple, la Norvège, il n'y a pas si longtemps, un joueur de Ligue 2 du championnat de Norvège a pris un carton rouge direct par l'arbitre parce qu'il avait traité un adversaire de PD. Voilà. Donc ce joueur, il a pris un carton direct, il est rentré au vestiaire, il s'est excusé après le match. Il a été sanctionné par son club. Enfin, je crois qu'avec un peu avec beaucoup de travail d'éducation, de sensibilisation, et en utilisant aussi la sanction, qui a aussi une vertu pédagogique, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Tout dépend de la volonté qu'on met dans ce combat. Il y en a très peu de volonté pour faire reculer l'homophobie dans le foot. C'est épuisant pour nous. Tu me demandais si... J'avais envie d'espérer que un jour notre collectif n'existerait plus. Moi, j'ai très envie que ça s'arrête, qu'on ait enfin éradiqué ce fléau des stades de foot. Moi, ouais, j'ai bon espoir. Je crois que il va falloir qu'on nous aide un petit peu. Et je crois que ce genre d'émission est là aussi pour essayer de faire comprendre les enjeux qui se passent à ce niveau-là.
Et tu préconises quoi justement pour éradiquer ce fléau, quelles sanctions, quelles actions mener ? Est-ce que c'est que de la pédagogie auprès des supporters, des clubs, même chez les jeunes, chez les amateurs en amont, et même directement chez les clubs pros, ou d'ailleurs j'ai envie de dire la sanction pure. Et dans ce cas-là, quelle sanction ? Est-ce que c'est la sanction économique ? Est-ce que c'est un retrait de points ? Est-ce que c'est une exclusion ?
Ouais.
Est-ce que vous avez des idées chez Rouge Direct pour ça ?
Oui, bien sûr, on a tout un tas de préconisations, mais d'ailleurs ces préconisations, elles existent depuis longtemps. Il y a un rapport du ministère des Sports qui a été fait par Patrick Karam fin 2013, qui contient 4 pages de préconisations. On a tout à disposition, tout est sur la table pour qu'on mette en place les actions qu'il faut. On sait très bien quelles actions il faut mettre en place. Bon, il y a le volet éducatif, ça c'est certain. La sensibilisation, expliquer le règlement, ce qui est interdit par le règlement, sous peine de sanction. Par exemple, quand ce pauvre supporter du RC Lens, le capot là, qui lance le chant homophobe, il ne se rend même pas compte que ce qu'il fait est grave et qu'il risque gros. Ça, c'est la responsabilité de la Ligue de football professionnelle qui n'a pas mis en place assez d'actions de prévention et de sensibilisation. Bon, il y a cette carte-là, éducative, mais il y a aussi le volet sanction. Sinon, ça ne sert à rien de faire des règlements. Ou alors, faites sortir l'homophobie du règlement de la Ligue de football professionnel. Alors, allons-y. Si vraiment on ne peut pas sanctionner, alors faisons sortir l'homophobie du règlement et du barème de sanctions. Il y a le volet aussi sanction qu'il faut renforcer, parce que quand un club prend une amende de 5 000 euros, l'OM prend une amende de 5 000 euros avec sursis pour une banderole homophobe. Bande de tafioles, soyez des hommes. Voilà. C'était en février 2011. L'OM reçoit une amende de 5 000 euros avec sursis. Enfin, ça n'a rien de dissuasif, ça. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement renforcer le barème des sanctions, c'est donner la possibilité d'interrompre le match, c'est des matchs à huis clos, des tribunes fermées, des retraits de points, jusqu'à l'exclusion du championnat, si les faits persistent. Tout ça, ça dépend aussi de la ministre des Sports, du ministère des Sports.
Est-ce qu'elle a un vrai pouvoir, justement, sur la LFP, sur bon, la Fédé, oui, ça dépend du ministère des Sports, mais la LFP, pas
ouais.
Beaucoup.
Ah oui,
est-ce qu'elle a vraiment un vrai pouvoir pour influer sur ces questions-là?
Elle a totalement le pouvoir, c'est-à-dire que la FFF agit par délégation de service public, et la LFP, c'est comme les poupées russes, la LFP agit pour la LFP, pour l'organisation du championnat de foot professionnel. Donc au final, la patronne, c'est Mara Sinan ou c'est elle qui décide. Bon, sauf que ce soit la LFP ou la FFF, pour l'instant, ils l'ont envoyé balader. Hein, Noël Le Graët s'est moqué d'elle.
Oui.
Voilà, c'est tout à fait inadmissible. Je ne comprends pas comment les choses peuvent se passer comme ça. Mais comment vous dire? Maintenant, il faut que l'orientation politique, elle soit respectée dans ce pays. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi la ministre des Sports n'a pas convoqué immédiatement le président de la FFF et la présidente de la LFP pour leur dire « Maintenant, les cocos, c'est terminé. J'ai dit quelque chose. Maintenant, vous suivez, vous appliquez. » Sauf que, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé. Dernière chose, peut-être. Il faut peut-être banaliser le fait d'être homo. Hein. Être homo, ça ne rend pas plus maladroit, ça ne rend pas plus fragile. Vous voyez, Yann Thorpe, le nageur, par exemple, qui est gay. Il a je ne sais combien de titres de champion olympique. Bon, ce qu'il faut, c'est gagner aussi le droit à l'indifférence pour les gays dans le milieu sportif. Ça passe aussi par l'engagement des politiques, mais un engagement symbolique. Par exemple, Barack Obama, il a souhaité rendre hommage à Robbie Rogers, qui est un joueur de foot gay, qui avait fait son coming out à la fin de sa carrière. Bon, bah, ça coûte rien. Ça coûte rien. Obama lui avait rendu hommage, voilà, parce qu'il avait reçu l'équipe de foot de Robbie Rogers à la Maison-Blanche, et il en avait profité pour saluer le courage de ce joueur de foot qui avait fait son coming out. Bon, bah, ça coûte rien. Pourquoi est-ce que Macron, pourquoi est-ce que Hollande ne l'a pas fait? Ça coûtait rien de dire, voilà les gars, je sais que statistiquement, parmi les joueurs de foot professionnels, peut-être même en équipe de France, il y a des gays. Bon, ben, c'est pas un drame. Et si le joueur qui veut révéler son homosexualité souhaite le faire pour vivre en paix avec lui-même, il aura tout mon soutien. Voilà. Mmh. Ça, c'est un discours de président engagé qui coûte pas un rond, mais qui permettrait de faire évoluer les mentalités et puis qui pourrait même permettre certains coming out. Ce serait bien pour tout le monde.
Mais justement, c'est la dernière partie que je voulais aborder dans cet épisode. C'est le fait d'être homosexuel dans le football et en général, j'ai envie de dire, dans le sport. Pourquoi c'est encore aujourd'hui si dur? On a eu la loi pour le mariage pour tous en 2012. Il y a des combats qui sont menés un peu partout en France, dans le monde. pour combattre l'homophobie. Pourquoi dans le foot, j'ai l'impression que c'est le seul sport où c'est encore plus difficile de faire son coming out en activité, en tout cas. Pourquoi dans le foot, c'est plus dur que dans le basket, que dans d'autres sports? Pourquoi on a si peu de joueurs qui révèlent, enfin qui font leur outing? Pourquoi c'est aussi dur?
En fait, le niveau d'homophobie dans le football, nous, on essaye de le quantifier. On essaye d'avoir des indicateurs. Et quand on met en place des indicateurs pour mesurer le niveau d'homophobie dans le foot, on s'aperçoit qu'il y a un niveau qui est tellement élevé qu'on comprend tout à fait légitimement pourquoi est-ce qu'un joueur de foot ne souhaite pas faire son coming out. Par exemple, une enquête du Paris Football en 2013 avait révélé que une enquête qui avait été faite auprès des clubs de foot professionnels et des jeunes footballeurs en centre de formation, et l'enquête avait révélé que 43% des joueurs de foot professionnels et 50% des jeunes en centre de formation ont des opinions hostiles aux homosexuels. Donc, quand vous avez un coéquipier sur deux qui est homophobe, il n'y a pas moyen, c'est pas envisageable de faire son coming out. Là, je parle juste des coéquipiers, des jeunes en centre de formation. Mais un joueur qui ferait son coming out en tribune, ce serait un enfer pour lui. Regardez juste Mathieu Valbuena. Johan Gourcuff. Johan Gourcuff, sur une suspicion d'être homo, il a eu, au-delà de ses blessures, il a quand même eu une carrière hyper compliquée. Un fardeau très lourd à porter. On sait qu'en 2010, pendant la Coupe du Monde, il en a aussi souffert au sein même de son équipe. C'était Patrice Evra qui était le capitaine de l'équipe de France à l'époque. Voilà, il était harcelé sur ces questions-là. Bon, juste sur une suspicion. Alors, porter l'image du joueur homosexuel en France en 2019 dans le championnat de France, faut être réaliste, c'est impossible. Parce que les chants homophobes, les injures homophobes ne sont même pas sanctionnés. Comment est-ce qu'un joueur pourrait se sentir protégé quand l'homophobie en France, dans le championnat de France, est autant décomplexée? C'est une mise au placard qui n'est pas choisie. On espère que les choses pourront évoluer dans le bon sens et permettre le plus tôt possible les coming out chez les joueurs de foot professionnels. Pour le moment, je crois que ce serait un peu imprudent de leur part de faire un coming out.
Je discutais avec un joueur qui me disait que pour certains joueurs d'un grand club français, cette question-là, c'était... On n'en parlait pas, quoi. Mmh. Et dès qu'on en faisait... faisait une espèce d'allusion, ça passait pas auprès d'eux. Ils se braquaient tout de suite, ils s'énervaient tout de suite, et c'était très compliqué pour eux d'entendre parler d'homosexualité dans un vestiaire. Ouais. C'est pour ces raisons-là, j'imagine aussi que ça va être très compliqué qu'un jour un joueur professionnel en activité, que ce soit une grande star ou pas du tout, fasse son coming out, même si c'est un club de Ligue 2 ou de Ligue 1.
Effectivement, c'est une réalité. Qui pour l'instant est très sclérosé, très rigidifié. Effectivement, ça ne passe pas. L'homosexuel, c'est vraiment la figure de ce qu'il y a de pire dans le football. C'est une norme qui fédère même un groupe. L'homophobie fédère un groupe de jeunes joueurs de football. Ça aussi, c'est dans les rapports qui traitent de l'homophobie dans le football. Donc il y a un boulot considérable en termes d'éducation à faire. Bon, en même temps, on a les moyens, la FFF a les moyens d'engager des personnes chargées de déconstruire les stéréotypes sur les gays. Tout ça repose sur une question de volonté. Et c'est pour ça que nous, on mène ce combat. C'est que on se dit que avec nos petits moyens, on peut quand même faire en sorte que cette volonté d'agir contre l'homophobie, on arrive quand même à l'animer et puis à rassembler un maximum de gens pour faire avancer les choses.
Comment tu vois le milieu du foot dans 10 ans?
Si on reste sur cette tendance, je pense que j'aurai encore moins envie de regarder un match de foot et que je me retrouverai encore moins dans ce sport qui aura été vraiment dévoyé par l'argent, le business, par le détachement par rapport aux valeurs de base du sport. Bon, ça c'est si on continue sur cette tendance-là. Moi je pense qu'il peut y avoir quelques résistances et quelques rappels à ce qui fait l'identité du football et de ce qui fait la valeur du football. Je pense que même modestement, les prises de position de l'actuelle ministre des Sports donnent un peu d'espoir. Pas énormément, mais un peu d'espoir. Voilà. Après, ça dépendra aussi de l'engagement de toutes et de tous. Nous, au collectif Rouge Direct, on a des compagnons de route, on a des soutiens politiques, militants, etc. Mais la tendance générale de la société n'est pas trop à l'engagement militant en ce moment. Bon, on aimerait que ça change. On aimerait avoir plus de soutien aussi, parce que quelquefois, pour être honnête, on se pose la question, on se dit, mais enfin, est-ce qu'on a vraiment raison de mener ce combat? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire autre chose? Est-ce que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené? Parce que c'est un combat qui est très, très difficile, épuisant. Et on rencontre aussi beaucoup de gens, de supporters, qui sont finalement très conservateurs, qui refusent de se remettre en question dans leur façon de se comporter en tribune. Donc on arrive à douter. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais je le redis, c'est un combat qui est très difficile. Donc, si vous pensez que ce combat mérite d'être mené, il ne faut pas hésiter à juste même quelques mots d'encouragement. C'est très important pour nous.
Et parfois, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien.
Vous n'imaginez pas à quel point ça peut faire du bien, les encouragements, ouais, plutôt que les injures. Parce que les injures, ça, par contre, il y a du monde pour ça. Hein.
Effectivement, tu l'as dit, tu as de plus en plus de mal à regarder un match de football. Mais je voulais te demander si, dernièrement, tu as eu un ou plusieurs matchs qui, vraiment, t'a beaucoup plu. Et si oui, c'était lequel?
Alors, très franchement, pour la paix de mon ménage, j'ai vraiment des difficultés à voir des matchs de foot, mais je pense que ça devrait pouvoir s'arranger avec un petit peu d'effort de part et d'autre. Très franchement, je le dis, hein, j'ai perdu, comme beaucoup de gens autour de moi, qui aimaient le foot, qui ont grandi avec le foot. J'ai perdu cette flamme là, cet amour là. Peut-être que ça reviendra, mais pour le moment, non. C'est plus une époque ancienne qui. Voilà, moi je préfère à la limite.
Parce que tu parlais du FC Nantes de 95.
Ouais, hein, ouais. Voilà, moi j'ai plus de plaisir en fait, voyez, à regarder des vieux matchs. Voilà, mon plaisir, il est plus là. Là, je trouve que, je sais pas, je trouve que le football est très corrompu par l'argent, par des comportements que je trouve pas à la hauteur de la responsabilité des joueurs, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, moi, ce qui m'a fait rêver, c'était la Coupe du Monde 98, par exemple. Il faut aussi prendre la mesure des espoirs qui ont été un peu douchés après la Coupe du Monde 98. On avait l'impression qu'on allait reconstruire une société respectueuse de la diversité qui aurait dépassé certains problèmes de racisme, etc. Bon. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a une personne comme Alain Finkielkraut qui vomit sa haine sur l'équipe de France de 2010, qui parle d'une France black, black, black. Bon, on laisse M. Finkielkraut tenir des propos aussi racistes, aussi stupides. Voilà, je trouve qu'on a... On a perdu peut-être une certaine fraîcheur qu'il y avait dans le football que j'ai connu il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Mais bon, il faut aussi faire confiance peut-être à la génération qui vient. On ne peut pas injurier l'avenir. Il faut toujours faire confiance aux générations qui arrivent. C'est jamais perdu d'avance. Par contre, il faut pas non plus être naïf. Et nous, on mesure beaucoup. On prend la mesure du problème de l'homophobie chez les jeunes, par exemple. Sur les réseaux sociaux, on voit que 9 fois sur 10, les jeunes les plus violemment homophobes ont des profils réseaux sociaux avec du foot, des joueurs de foot, voilà, sont supporters. Donc, bon, on est quand même un peu en difficulté. On peut être inquiet. Mais je vous dis, il ne faut pas injurier l'avenir. On verra bien comment les choses évolueront. Il faut juste s'engager avec un petit peu plus de fermeté contre ces choses qui sont inacceptables.
Et on espère que l'avenir sera vraiment meilleur sur ce plan-là et sur d'autres aussi également. On arrive à la fin de cet épisode. Julien Pontes, merci beaucoup.
Merci d'être à toi.
Venu,
merci beaucoup.
D'être venu dans mon enquête pour parler du problème de l'homophobie dans le football et dans le sport en général. Je dis dans le sport en général parce que ça ne concerne pas que le football, malheureusement. Du coup, on suit Collectif Rouge Direct, c'est sur le site internet, sur Twitter, c'est ça?
Ouais, Twitter, Facebook, puis dans la presse aussi, quand ça nous arrive de dénoncer certains faits d'homophobie, faut pas hésiter à relayer nos actions et nos combats. Merci.
Ben voilà, merci à toi surtout, merci. Et pour le combat que tu mènes, que vous menez avec Collectif Rouge Direct. Et puis, j'espère à très vite.
Merci encore, merci infiniment.
Je t'en prie, ciao. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Montage et mixage de Laurie Galigani. Et à la prise de son, Adrien Beccaria au studio L'Arrière Boutique. Merci à Julien Pontes d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour nous donner plein d'amour. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao !